Bon, on y va. Ici, je crois qu'ici on va écouter, n'est-ce pas? Oui. Ici, on va enregistrer. Je viens de faire un séminaire à Montevideo. Alors, comment a-t-il, quelle a été l'idée initiale et comment ça s'est passé à Montevideo, à ton avis?
Alors, l'idée initiale de...
Du séminaire.
Je pense que ça a été de profiter. Je pense qu'en fait, si je devais le dire un peu de façon poétique, ça serait de. Je pense que ça a été de mettre. Pour moi, hein, c'est pour moi, c'est pas. De me remettre au travail. De me remettre au travail, c'est-à-dire de reprendre un travail que j'avais un peu laissé en suspens pour partir vers d'autres pistes, qui étaient les fragments subjectifs, qu'en fait j'avais construit comme un concept, enfin ce dont j'ai parlé dans le séminaire, pour résoudre des questions que je me posais à l'époque, la question de la lecture, la question de l'expérience subjective de la lecture, en fait, je pense que c'était ça, de l'expérience subjective de la rencontre avec un auteur, avec une œuvre, etc. Et il m'avait fallu à ce moment-là construire un concept pour arriver à peut-être à saisir, à mieux comprendre, à profiter aussi de cette rencontre. Et il s'avère que je pense que ces dernières années, ce qui s'est passé, et je pense que ça va être l'objet de la conférence que je vais faire demain soir. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé ce concept sans m'en rendre compte, d'une certaine manière, comme s'il fonctionnait bien, en fait, et dans les différentes rencontres que j'ai pu faire, et personnelles, et cliniques, et littéraire, j'avais utilisé ce concept, mais sans trop m'en rendre compte. Et à l'occasion de l'invitation à Montevideo, enfin à l'occasion de l'invitation à Montevideo, j'ai eu l'opportunité de revenir sur la raison pour laquelle j'avais fabriqué ce concept en relisant le livre, en fait, je crois, 5 ans d'intervalle. Et je me suis rendu compte que les propositions que j'y faisais, enfin l'invention, la construction de ce concept, venaient peut-être répondre aussi à l'époque à d'autres questions que je ne me posais pas directement. Notamment, c'est ce que je disais lors du séminaire, des questions cliniques, en fait. C'est-à-dire des questions propres à une pratique. Une pratique pour le dire très très largement, de psychanalyste, en fait.
D'accord. Comment tu t'as rendu compte de l'utilité de cet outil à la pratique clinique?
Ah, c'est une bonne question. En fait, une des résistances. Enfin, comment je m'en suis rendu compte? En fait, en deux temps, je crois. Le premier, ça a été d'arrêter de travailler en institution.
Ah ouais.
Quand je travaillais en institution, j'avais des outils pour travailler en institution que j'allais creuser, que j'allais emprunter à Jean Houry, Tosquelles, François Tosquelles, bon, par exemple, mais pas tellement à Guattari au bout du compte, mais voilà, plutôt de ce côté-là. Et ces outils m'étaient suffisants, d'une certaine manière. En tout cas, ils fonctionnaient bien dans l'institution. Enfin, bien, tout autant que ça puisse fonctionner dans une institution. Ayant arrêté de travailler dans une institution, justement parce que ces outils ne me suffisaient plus et que, d'une manière ou d'une autre, j'en ai pas construit d'autres, en fait. Enfin, je me suis installé. La raison pour laquelle je ne m'installais pas avant, elle était, je pense, très réactive, en fait. Elle était très réactive à la lecture de l'Anti-Œdipe.
Ah ouais.
À savoir que je mettais quand même beaucoup en relation la pratique de psychanalyste en cabinet avec une pratique plutôt du côté. Alors, le terme va paraître fort, mais pour les années 70, il ne semblait pas fort du tout. Probablement un peu abject.
D'accord.
À savoir, pour le dire en termes de Foucault, en termes
Oui.
foucaldiens, une pratique qui lie le pouvoir de façon particulièrement aiguë et qui en fait semble travailler la liberté, mais en fait aliène. Une pratique, pour le dire en termes de zoogotarien, qui fait le jeu du capitalisme. Ouais. Une pratique, pour le dire, comme le disait François Châtelet, notre philosophe, une pratique qui convient à des ports de bourgeois, enfin, etc., des choses de cet ordre-là. Parce que la psychanalyse en cabinet, seuls les bourgeois peuvent se la permettre, ça coûte cher, etc. etc., etc. Et d'une certaine manière, je pense que j'avais un peu pris tout ça au pied de la lettre. Et en fait, voilà. Et ce qui s'est passé, il s'est passé plusieurs choses personnelles. La première chose, c'est que j'ai fait une analyse assez longue lorsque j'avais une vingtaine d'années. Assez longue, d'une 12 ans. Il y a 5 ans, j'ai repris une analyse, en fait. Donc il va dans d'autres directions, évidemment. Bon, moi, je ne crois pas à la différence entre une analyse qui serait didactique et une analyse qui serait personnelle. Donc voilà. Mais il n'empêche que voilà, dans l'analyse actuelle, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus question de pratique, en fait, de mon propre travail. Et en fait, en reprenant une analyse, ces remarques que je me faisais sur la psychanalyse de cabinet, psychanalyse en divan à deux, sont tombées, en fait. Et du coup, en m'installant, j'ai pu commencer une pratique d'analyste et y voir du sens, énormément de sens. Étant invité par vous, me replongeant dans ce livre que j'ai écrit à une époque où je faisais pas du tout j'avais pas une pratique de cabinet, j'avais pas une pratique d'analyste à deux, j'avais une pratique d'analyse institutionnelle, on va dire. Je me suis rendu compte en le relisant ces derniers mois, en travaillant à nouveau ce concept ces derniers mois, qu'en fait c'était quelque chose que j'utilisais concrètement dans ma pratique, en fait. Donc pour répondre à ta question, comment je m'en suis rendu compte? Et ben, tout simplement en m'installant et en me rendant compte que ce que j'appelais fragment subjectif, cet instant, c'était quelque chose que je pouvais vivre moi-même en tant qu'analysant et moi-même en tant qu'analyste. Et ça, je pense que ça a été une découverte étonnante de voir que probablement ce que je construisais comme concept pour des raisons, on va dire, philosophiques, en tout cas pour répondre à une question philosophique, à savoir qu'est-ce que c'est que cette rencontre avec un auteur, qu'est-ce que c'est que cette rencontre avec un texte, qu'est-ce que c'est que cette rencontre littéraire, artistique, je me rends compte qu'en fait, cette question, je me la posais probablement à mon insu, inconsciemment, d'un point de vue clinique, c'est qu'est-ce que c'est que cette rencontre qui s'opère entre un analysant et son analyste, et je me suis rendu compte que le concept était tout aussi valide, alors avec des éléments à retravailler, évidemment, et c'est pour ça que j'ai dit oui à ce séminaire, pour pouvoir justement les retravailler, notamment c'était hier l'objet de la discussion pendant le séminaire où certains points m'ont été des questions m'ont été pointées par des cliniciens en disant oui mais là est-ce qu'on peut, oui mais là est-ce que ça marche, etc. Et du coup on me dit oui, non, là on peut pas complètement faire l'amalgame, mais du coup on est obligé de déplacer un peu l'outil, voilà. Donc c'est
Et tu as dit que peut-être que ça serait une formulation de l'inconscient, une autre formulation, dans quel sens tu penses
ça, en disant ça. En fait, je pense à un concept de Guattari qui s'appelle les formules d'inconscient. Moi, je trouve une très belle formule. En fait, dans plusieurs textes, notamment le texte de la fin de sa vie, il se pose la question de savoir si on pourrait faire un lien entre, pour dire assez vite, l'inconscient kleinien, l'inconscient lacanien, l'inconscient freudien, l'inconscient jungien, l'inconscient, par exemple, etc. Pas du tout l'inconscient nietzschéen ou l'inconscient platonicien, non, l'inconscient d'un psychanalyste, c'est-à-dire avec plusieurs... avec un dérivé qui est celui de l'inconscient freudien, en fait, tel qu'il a été... Mais Il se pose cette question-là. Et en fait, ce qu'il dit, sachant qu'évidemment, quand on voit la description de l'inconscient par Lacan, on n'a pas exactement la description de l'inconscient par Anna Freud, par exemple.
Non.
Très clairement. Et en même temps, il parle de l'inconscient. C'est-à-dire qu'il se réfère tous les deux à Freud. Et du coup, le terme qu'il utilise pour essayer de... C'est le terme de formule d'inconscient. Formule au sens presque mathématique du terme. En disant, on fait une formule comme on décrirait une équation, en fait. Qui permet d'appréhender l'inconscient. Ce n'est évidemment pas l'inconscient, bien entendu, puisque l'inconscient se dérobe toujours à ce genre de choses. Mais cette formule-là permet de peut-être de répondre, pour le psychanalyste qui la formule, justement, cette formule, permet de répondre à des questions de cadre, des questions d'échange, de la façon de pouvoir communiquer autour de cet inconscient avec d'autres personnes, etc., etc. Et que probablement que, par exemple, si les gens de l'école lacanienne se retrouvent, c'est qu'ils ont peu ou prou à peu près une même formule d'inconscient. Combien même si on prend chacun des analystes de l'école, on verra bien que leur formule est différente. D'accord. Mais globalement, ils se rapprochent à peu près d'une formule qui n'est pas, par exemple, une formule entre guillemets lacanienne, au sens où les lacaniens de l'école freudienne, ils ont une autre formule d'inconscient, de la cause freudienne, ils ont une autre formule d'inconscient où eux se retrouveront tout à fait. Voilà. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et quand je vous disais que j'avais envie de travailler avec vous peut-être une lecture clinique de ce concept de fragment subjectif, ou d'une certaine manière le voyage à la Melville que je propose dans le livre ne serait plus tant le voyage avec Kafka, avec un film, avec un parcours philosophique, mais serait un voyage dans une analyse, par exemple. Je me suis dit, mais est-ce que d'une certaine manière, ce qui s'est passé, et la raison pour laquelle Mayette Viltard et Clinic Zone, entre autres, et une partie de l'école lacanienne, enfin certaines personnes de l'école lacanienne, ont lu ce livre et aiment ce livre, c'est peut-être qu'il y a une formule de l'inconscient qui peut nous être commune, enfin en tout cas, ou quelque chose où on reconnaît là, la façon dont l'inconscient est formulé fait écho. Alors évidemment, c'est pas la même, mais il y a quelque chose, en tout cas, voilà, d'une formulation commune. Et c'est en ce sens-là que je me disais, tiens, on peut essayer peut-être de le proposer comme une formule inconscient. Et hier, enfin au séminaire, du coup, cette évidence que j'ai eue dans les questions et dans la présentation avec la salle, qu'effectivement, fragment subjectif correspondait à peu près tous ceux qui étaient là, et moi-même, à une formulation possible de ces moments particuliers de l'analyse où un processus de désindividualisation de la cure, de l'espace, du cadre de la cure, du cadre de l'analyste, du cadre subjectif, j'entends, individualisé de l'analyste, de l'analysant, qu'il y a quelque chose qui devient imperceptible et que là, quelque chose se passe de l'inconscient qui fait que l'interprétation, si elle a lieu, n'est plus seulement le fait de l'analyste, mais quelque chose qui se donne, ça interprète, enfin pour le dire par exemple. Le fait qu'on se retrouve à tous essayer de travailler autour de ce moment-là, en l'appelant de façon commune, temporaire pour ce séminaire, fragment subjectif, d'une certaine manière, montre qu'il y a une formule d'inconscient peut-être, enfin commune. En tout cas, alors ensuite, après, formule d'inconscient, c'est une formule est toujours amenée à changer.
D'accord.
Effectivement, les formules d'inconscient de Lacan ne sont pas les mêmes des moments où il essaie de formuler des questions qui se posent à lui, de la même façon pour Freud. Ne serait-ce que les topiques montrent bien qu'il n'a pas les mêmes formules d'inconscient. Voilà, donc... ce que je disais hier pour un concept pour un philosophe comme Deleuze et Guattari n'est pas fermé au sens où les problèmes qui se posent à soi sont toujours changeants et que donc le concept doit être modifié pour répondre à cette problématique. De la même façon, une formule d'inconscient n'est pas fermée et je pense qu'un très mauvais psychanalyste aurait une idée géniale d'une formule d'inconscient et se dit toute ma vie je vais la vendre.
Non.
Voilà. Ça c'est un gourou d'une certaine manière, mais c'est pas un analyste. Voilà. Donc, l'idée, c'est que la formule d'inconscient, c'est telle que Guattari la propose, lui-même en ayant proposé une avec Deleuze, comme, non pas comme théâtre, mais comme usine de production. Enfin voilà, ça c'est une. Non pas comme. Ou alors comme agencement collectif d'énonciation, comme corps sans organes, tout ça c'est des formules d'inconscient.
Oui.
Voilà, c'est en ce sens-là que je parlais de formule d'inconscient.
Et tu parles du processus de subjectivation et aussi de moments. Et tu crois qu'il s'agit de des événements tu parles aussi de destin et l'instant de.
Alors là je pense que c'est une vraie question et c'est très compliqué. Je pense qu'en fait. Dans mon idée, là, je pense que c'est là où probablement je suis le plus Nietzschéen, en fait. Cette façon qu'il a de penser l'instant de l'éternel retour,
ouais.
Avec cette célèbre formule « deviens ce que tu es »,
ouais.
À savoir... il est des instants où le temps se joue d'une manière particulière. Le temps se joue d'une manière particulière où on ne peut pas déterminer s'il est durée, s'il est devenir, s'il est mouvement ou s'il est instant, s'il est fixe, s'il est fini. Voilà, cet instant-là, ce que j'appelle, alors d'un autre concept de mon précédent livre, alors je ne sais pas, ça c'est off, hein, mais qui va peut-être être traduit en espagnol, parce qu'en fait, l'éditeur de Cactus m'a demandé que je lui envoie le livre qui s'appelle Manuel à l'usage de ceux qui veulent réussir leur anti-Oedipe. Donc ça, c'était le livre précédent, qui était sorti chez Fayard, qui est un livre sur le temps, en fait, avec une tentative de conception du temps autour de deux figures littéraires, que sont Mishima et Proust, et où j'essaie de répondre à cette question.
D'accord.
Qu'est-ce que cette conception du temps, Nietzschéenne ? Alors, je ne convoque pas trop Nietzsche à l'époque, un peu, mais pas trop, parce que je n'avais pas encore rencontré autant que ça. Mais voilà, il y a quand même ça correspond assez à cette idée nietzschéenne d'un temps. Alors ensuite, après, en ayant par exemple travaillé avec Simondon, en ayant travaillé avec d'autres auteurs, je me suis rendu compte que la proposition quantique de cet état qui n'est pas vraiment un état où en même temps la matière se comporte comme matière et se comporte comme énergie, et l'énergie se comporte comme matière. Voilà. Ça, par exemple, sont des choses que moi, évidemment, en tant que non-scientifique, je connais mal, mais en tout cas, c'est quelque chose que les scientifiques disent être des choses qui échappent à notre conscience, qui échappent à notre appréhension directe des événements. Et moi, je dirais que la façon de concevoir le temps correspondra à ça. C'est en même temps, c'est pas en même temps matière, en même temps énergie, mais ça serait en même temps être. Et en même temps devenir.
D'accord.
Donc quelque chose où cette vieille tradition philosophique qui oppose l'être au non-être et l'immobile au devenir, l'être au devenir, on peut dire Héraclite à Parménide, pour le dire simplement, n'est peut-être pas si valide que ça. En tout cas, moi j'en suis sûr, ne l'est pas du tout dans le domaine de l'inconscient.
D'accord.
Ça c'est certain. D'accord. Et c'est la démonstration de Freud.
Ouais.
C'est pour le coup dans l'inconscient, les conséquences peuvent précéder les causes. Ou s'il y a un temps. Alors c'est marrant parce que j'avais jamais réfléchi à ça, c'est en temps parlant. Le concept que je fabrique dans Manuel à l'usage de ceux qui veulent réussir leur entier libre, c'est temps, T-E-M-P, entre parenthèses, S.
Ah oui ?
Et oui, j'avais pas du tout réalisé, comme fragment, en fait. Et bon, voilà, par exemple, ça, c'est une expérience qu'on connaît en tant qu'analysant, qu'en analyste. On voit bien que les causes et les conséquences se mélangent, enfin, sont temporellement très, très différentes.
Et ça, c'est quelque chose de spinozien aussi.
Alors oui, oui, bien sûr.
J'insiste avec Spinoza parce que je pense qu'il y a beaucoup de Spinoza dans ton livre.
Oui, énormément. Mais je le pense aussi. Je le pense aussi. Spinoza, c'est un auteur que j'ai découvert récemment, il y a 3-4 ans, que je lis, que je travaille depuis 3-4 ans, avec lequel je ne me sens pas encore suffisamment familier pour pouvoir le convoquer de façon aussi directe que je convoquerai d'autres. Mais d'une certaine manière, oui, je sens quelque chose de ce côté-là, oui.
J'étais ici dans les années de la confusion entre la cause et la conséquence, qui travaille Spinoza, tout ça. Oui. Et qu'est-ce que tu as ressenti? Quels ont été les effets ou la répercussion de ta proposition à Montevideo?
Alors, les effets sur moi ou sur les autres?
Bon, les deux.
Sur moi, alors en fait c'est marrant parce que tes questions sont très intimes.
Ah
en fait, oui, je trouve. Non mais c'est très bien, très bien. Sont très.
Je m'excuse.
Non, du tout, faut pas. Au sens où elles. En fait. Je crois que ce qui est difficile actuellement pour moi, c'est j'en ai pas parlé hier et puis j'en ai pas parlé, mais en même temps c'est important que j'en parle parce que c'est il y a une révolution subjective dans ma vie. C'est que bon, ça c'est une révolution subjective que beaucoup de gens connaissent, le fait de devenir père, c'est pas une mais je suis devenu père de triplé.
Ouais.
Dans un contexte familial d'une famille très élargie, moi-même étant homosexuel, ayant rencontré, vivant avec et la mère de mes enfants et l'autre père de mes enfants. Ouais. Enfin voilà. Donc il y a quelque chose qui a été très fort au niveau du temps, au niveau de la. D'avoir trois enfants d'un coup, de ce que ça peut représenter. Et jusque-là, moi j'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui est beaucoup écrit, qui est beaucoup lu, qui passait mon temps en fait à travailler, à être avec les auteurs. C'est aussi pour ça que je pense que Fragment Subjectif était important pour moi. C'est que, comme dans des grandes histoires d'amour, il y a toujours un moment où on essaie de se trouver de se demander pourquoi on est aussi amoureux, pourquoi, ou quand on est, par exemple, sexe addict, pourquoi est-ce qu'on a autant de... On couche aussi souvent, tu vois, quelque chose comme ça. Il y a un moment où on se dit, bon, mais qu'est-ce que j'ai pour... Et moi, voilà, qu'est-ce que j'ai pour écrire autant, pour lire autant, pour... Et en fait, à la naissance de mes enfants, il y a eu un mouvement, mais alors totalement inverse. C'est-à-dire que j'ai quasiment arrêté, presque du jour au lendemain, enfin 4 mois après, de lire, d'écrire, de travailler, etc. Ce qui même à un moment... il n'y a pas si longtemps que ça, me faisait penser que c'était fini. Un peu comme une source serait tarie. Il y a une très jolie phrase que je me disais d'un film que j'adore qui s'appelle Blade Runner.
ou à un moment le créateur du réplicant dit à sa créature qui regrette de mourir vite, lui dit mais quand une bougie brûle deux fois plus vite, elle brûle deux fois moins longtemps. Et je trouvais que c'est une belle phrase, parce qu'à un moment je me suis demandé ça, je me suis dit mais du coup d'avoir autant publié sur Guattari, autant lu d'auteurs vite, c'était une critique que, dont on parlait avec Sandra ou des philosophes pour me dire mais voilà, quelqu'un qui dit qu'il travaille Nietzsche pendant 5 ans, moi ça fait 50 ans que je travaille Nietzsche, comment est-ce qu'il peut dire qu'il connaît Nietzsche, voilà, c'est une certaine façon de travailler qui effectivement ne se donne pas 2 heures de lecture de Nietzsche par jour, mais se donne 8 heures de lecture de Nietzsche par jour. Donc voilà des choses, et je me suis dit à un moment, mais la source c'est Harry, quelque chose de cet ordre-là. Ce que je me disais, mais ce que je sens pas en fait. Et le fait de venir à Montevideo, en Amérique du Sud, à l'autre bout de la planète, moi qui depuis 3 ans vis tous les jours, enfin voilà, avec ma famille, mes enfants et mon travail, mes triplettes. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que depuis que j'ai pris l'avion, au moment où j'ai pris l'avion, tout le mouvement est revenu. Tout le mouvement de pensée, d'écriture, un truc, mais comme si le temps, ce qui s'était passé n'avait été. Donc quand tu me demandes l'effet, c'est pour ça que je te parle d'intimité. Quand tu me demandes l'effet, c'est celui-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai repris mon livre, je l'ai lu. Ça faisait déjà 2 mois que j'essayais de. Déjà, je sentais des choses arriver, tirer des choses, mais là, en 24 heures de voyage, tout s'est complètement articulé. Le livre, j'ai pu le relire en 3 heures, en fait. Et tout m'est revenu. Alors que la théorie de Simondon, il y a 2 ans, si on m'avait interrogé sur la théorie de Simondon, j'aurais dit, mais je ne sais plus. Sur Nietzsche, je sais plus, je ne vois pas de quoi. Et tout d'un coup, dans l'avion, le fait d'être loin de mes enfants, loin de ce cadre-là, tout m'est revenu, mais d'une façon Simondon, le principe, tous les principes, voilà. Mais oui, mais je n'ai jamais oublié ça. Voilà. Donc l'effet, c'est ça. Et ça, c'est assez intriguant, parce que je pense que si ça explique pourquoi, dans ta première question, il y a ce passage d'une utilisation possible du concept de fragment subjectif à une autre utilisation possible du fragment subjectif. Parce que d'une certaine manière, mon ami. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que quand je dis que pendant ces 3 ans, je n'ai rien fait, c'est pas vrai, en fait. Mais c'est un truc particulier qui, je pense, aussi est important. C'est que depuis 3 ans, je ne travaille plus seul, en fait. Je suis incapable de travailler seul. Mais par contre, je continue à travailler. Et c'est intéressant, parce que quand je dis que je n'ai rien fait, rien lu, c'est pas vrai, du tout. Du tout. C'est que, une fois par semaine, pendant 3 heures, nous travaillons avec mon ami Maoro Murasawa, qui est japonais, nous travaillons à des textes, en fait. Nous écrivons à deux. Donc en fait, il y a ce moment où on échange, et on a écrit plusieurs textes, hein, qui sont tous les derniers textes que nous avons publiés, parce que je ne les ai pas publiés seuls, j'ai rien publié seul en fait depuis 4 ans, quasiment. Il y a des textes qui sont sortis, mais qui avaient été écrits en fait avant. Ouais. Mais les textes ont essentiellement été publiés en japonais, quelques-uns en français, mais essentiellement en japonais. Et par contre, ça, le fait de travailler à deux, dans une méthode particulière qu'on invente, avec un projet sur lequel on est, un projet de livre qui, mine de rien, s'écrit, puisque à peu près la moitié du livre est maintenant écrit article par article, morceau par morceau, fragment par fragment. Mais c'est à deux. Et d'une certaine manière, je ne pourrais pas dire j'ai travaillé pendant ces années. Je pourrais dire nous avons travaillé, mais ce n'est pas moi. C'est-à-dire que tous les concepts qu'on utilise, et notamment une des bases de travail, ce sur quoi on travaille toutes les semaines régulièrement depuis 4 ans, c'est Spinoza. Ouais. Voilà. Donc, pour répondre à ta question précédente, voilà, on se fait des lectures de Spinoza à la lumière d'autres auteurs. L'éthique étant le seul livre de philosophie que je lis depuis 4 ans, très lentement, parce que c'est un livre très très compliqué, qu'il faut lire très lentement. Enfin, j'arrive pas à lire vite, alors que je lis très vite d'habitude ce livre-là, je lis très lentement. Mais d'une certaine manière, tout ce qu'on écrit ensemble, je ne pourrais pas dire c'est moi qui l'écris, au sens où je pourrais dire, par exemple, de ce séminaire d'hier, que c'est moi qui l'ai fait. Enfin, c'est moi. C'est bon. Nous, évidemment, mais c'est moi avec vous. Alors que cette expérience d'écriture dont je te parle, c'est pas moi, c'est nous, Mauro et moi. Et donc, il y a quelque chose probablement dans ce que ça m'a fait, quels sont les effets. Ce que ça m'a fait, curieusement, fragment subjectif, c'est que le fait de venir vous voir, le fait d'échanger avec vous, c'est comme si ça m'avait fait revenir à moi. Enfin, revenir à moi. Je continue à être moi, évidemment. Oui. C'est pas le cas. Mais en tout cas, revenir à un moi qui a pu écrire ce qu'il a écrit et ce dont il vient de vous parler.
D'accord.
Comme si je pouvais comme si je revenais. C'est marrant, c'est un peu comme si je dis qu'après après le fragment subjectif, chacun revient à soi, en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose comme ça. Tout d'un coup, vous m'invitez à arrêter, mais à revenir de cet espace temporel. Il y a quelque chose comme ça. C'est un peu confus, hein, mais...
C'est quelque chose que je suis ressenti dans le séminaire. Ce que tu parles, comment je peux te dire? Peut-être que c'est moi, mais tu dis... Et tu fais en même temps. C'est quelque chose comme de la performance, de la performativité. Tu pourras me dire, mais tout le monde fait ça. Non, je ne crois pas que tout le monde fait ça de la même manière. Mmh. C'est ça qu'il y a quelque chose de vécu, que tu es en train de vivre quand tu le dis.
Alors ça, c'est une chose, ça peut paraître un peu, c'est pas, je pense pas que chez moi ça soit une posture, ça peut paraître une posture, parce que là toi tu connais bien le mouvement queer, donc la question de la performance, de la posture est une question très très complexe, que c'est assez difficile, c'est pas évident de différencier la performance de la posture. Une chose est sûre, c'est que moi je n'ai jamais... Je n'ai jamais pu travailler s'il n'y avait pas une nécessité interne.
D'accord.
Intellectuellement, ça n'a jamais été possible. C'est un truc, c'est même une faiblesse, évidemment. Hier, je disais au séminaire qu'à une question que me posait quelqu'un à propos de ma thèse, comment une thèse quand même aussi originale, enfin, côté iconoclaste, peut avoir été soutenue à l'université. Je disais... avec une pointe d'ironie, mais c'est totalement vrai, qu'en fait, j'étais pas dangereux puisque je n'avais pas de prétention universitaire. Donc du coup, quand on n'a pas d'ambition universitaire, évidemment, on est beaucoup moins dangereux et on est moins sujet à... Voilà, on est moins obligé de passer sous les fourches codines. C'est vrai, mais la raison pour laquelle j'ai pas d'ambition universitaire, c'est pas parce que je suis quelqu'un de modeste ou qui voudrait garder sa liberté, je pense peut-être au bout du compte, mais en tout cas dans un premier temps consciemment, c'est pas ça. C'est surtout que cela me demanderait une capacité de travail au-delà de la performance, c'est-à-dire quelque chose d'une dans ce que tu ressens de cette différence entre performativité, dont moi je ne suis pas capable pour les choses intellectuelles. D'accord. C'est-à-dire que hier par exemple un autre auditeur me posait la question de la différence entre le concept chez Lacan et le concept chez Deleuze. J'essaie de répondre et à un moment je pourrais arriver à me mettre dans un rapport de pouvoir à pouvoir répondre à cette question, c'est-à-dire recreuser ce que Lacan dit, etc. Mais là, à ce moment-là, je perds toute énergie. C'est-à-dire, je me sens vraiment être en face de la personne et lui dire, mais je ne comprends pas de quoi vous parlez. Mais à ce moment-là, je deviens stupide. Enfin, vraiment stupide au sens où je ne suis plus capable d'associer cognitivement différents concepts qui me permettraient de pouvoir répondre. Et je pourrais répondre. Tu peux toujours être dans une position de pouvoir il suffit de dire... Par exemple, la personne qui m'a posé cette question avait l'air plutôt jeune. Devant lui, il y avait un dispositif intéressant. Devant lui, il y avait une jeune fille qui avait l'air aussi jeune, dont je voyais qu'elle faisait non quand j'étais en train de parler du concept de Lacan. Donc je me suis dit, bon, voilà, visiblement, ce que je suis en train de dire là est en train d'achoper sur eux un moment où ils sont vraiment psychanalystes, ils ont vraiment une conception de Lacan, et moi je suis en train de dire quelque chose, et il y a un jeu de pouvoir. Aurait pu se jouer quelque chose de l'ordre du pouvoir, d'une performance, encore une fois, où je viens leur dire, écoutez, c'est moi qui suis, c'est moi qui suis derrière la table, vous êtes bien gentil, mais voilà, moi, Lacan, j'ai 50 ans, je le lis depuis 20 ans, donc voilà, ça fait 30 ans que je lis Lacan. Alors effectivement, je ne suis pas un lacanien. Je veux dire, vous, si vous alliez à l'école freudienne, on vous rigolerait au nez en disant, mais pauvre débile, vous connaissez rien à Lacan. Voilà. On pourrait jouer quelque chose. Ce qui m'est venu d'emblée, c'était de me dire, mais cette personne qui est en train de me dire ça, dans la question qu'il me posait, et dans la façon dont la jeune fille réagissait devant lui, je sentais bien que eux, ils avaient utilisé, ils étaient en train de construire des concepts, ils étaient en train de, qui répondaient à leurs questions. Et donc, ils étaient au travail. Et que moi, sur cette question-là, j'étais pas au travail. Et que, à partir de là, la seule chose que je pouvais faire, c'était moi m'effacer, me dire mais évidemment je respecte votre travail, je respecte votre capacité de travail là où moi je n'ai pas cette capacité de travail. Un universitaire il n'a pas cette réponse là. Un universitaire il dit moi là je réponds. Quelqu'un qui n'est pas dans la performance.
Universitaire c'est
voilà, tu sais, il y a le champ de ceux qui savent, le champ de ceux qui ne savent pas, mais déterminé de façon, alors pour le coup, subjectivement fermée. Et y a un très très joli passage dans le colloque de Cerisy de 72 sur Nietzsche, où il y a Deleuze et Lyotard qui sont à la table. Alors, ça, si tu as l'occasion de lire ça, c'est. C'est drôle. Il est en 10-18.
Oui.
Et en fait, donc t'as Lyotard qui fait un texte sur les Nietzschéens d'aujourd'hui. Donc il se pose la question de savoir si en 72, dans les années 70, on pourrait considérer les hippies, les routards, enfin tu vois les beats, genre Kerouac, etc. Est-ce que ce sont les vrais Nietzschéens? Voilà. Donc il pose la question de façon un peu comme Lyotard le fait d'habitude, un peu provoque, en disant mais voilà, s'il y a des vrais Nietzschéens, ça serait eux, ça serait sûrement pas nous qui sommes à Cerisy en train de penser à Nietzsche, etc. Et Deleuze lui fait un texte sur j'en ai un petit peu parlé hier après-midi. Il fait un texte très très sérieux sur l'éternel retour, où il parle beaucoup de Klossowski, voilà. Et donc la conférence a lieu, Lyotard parle, Deleuze parle et Lyotard parle. Je sais plus dans quel ordre. Et ensuite il y a une question, question par un mec dont je me rappelle plus son nom. Il est marqué dans les actes. Il y a les questions et les réponses.
Ah d'accord.
Et il demande à Lyotard, ce hyper agressif dans la question, très très agressif, en lui disant mais pour qui vous prenez, enfin vous êtes, concrètement il lui dit vous n'êtes pas Nietzsche, hein. Et puis cette idée là un peu 70 un peu voilà, visiblement il aime pas trop les mouvements Vincennes, tu vois, enfin de intellectuels de l'époque, et il lui dit mais voilà, ben, votre truc de dire que les Nietzscheens c'est ceux que Kerouac est Nietzschéen, que Burroughs est Nietzschéen, mais que nous on l'est pas, bien gentil. Et il lui pose une question super technique. D'accord. Mais un truc, je me rappelle même plus la question, mais alors, un truc chiant, genre, est-ce que vous pensez que le Nietzsche de 1870 aurait pu dire que, etc. Et il y a Lyotard qui répond cette phrase extraordinaire, qui lui dit vous me posez une question, en me posant cette question vous me mettez à une place d'où je suis incapable d'y répondre.
Super.
Très belle phrase. Très très belle phrase de la part de quelqu'un qui est sur une tribune. Vous me posez une question en me mettant dans une place d'où je suis incapable de répondre. Et il dit, c'est peut-être pas la phrase exacte, mais c'est ça qu'il dit. Et là, moi, alors déjà, je trouve que c'est d'une force politique inouïe.
Oui, oui.
Pour le coup, alors on parlait des mouvements queer, enfin de la question de l'interrogation du pouvoir. Un type qui, sur une estrade, dit vous êtes en train de prendre le pouvoir, vous prenez le pouvoir sur moi, et moi, à ce moment-là, ce que je vous dis, c'est que je ne l'ai plus.
D'accord.
Vous me mettez dans une position où je ne l'ai plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je ne peux rien répondre.
D'accord.
Évidemment, l'autre profite de ce moment de lucidité de Lyotard pour lui dire « Non, mais vous ne pouvez pas vous dérober comme ça. » Parce que hier, l'auditoire était sympa.
Ouais.
Ce garçon qui pensait... Il était sympa. Ouais. Il aurait pu me dire « Mais attends... tu viens nous parler des concepts de Lacan, je te pose une question sur les concepts de Lacan, t'es pas capable de répondre. T'es un guignol, t'es pas sérieux. Enfin, si t'étais sérieux, tu pourrais me répondre. Non, il répond pas ça. Quand je lui dis, il me dit, oui, effectivement, ok, je vois bien que vous l'avez pas approché comme ça et que voilà. Et ok,
d'accord.
Très bien. C'est comme dans une backroom. T'as pas envie de baiser. T'as envie de baiser, ça veut dire que tu m'aimes pas. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le contact ne passe pas. Enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais. Le type évidemment n'avait pas cette intelligence dans le colloque de surveillance. Il repose la question à Lyotard, qui lui répond, mais je ne peux toujours pas vous répondre. Et le type qui, c'est très très drôle cet échange. Qui dit bon, je vais voir si j'ai plus de chance avec Deleuze.
Et qui du coup pose la question à Deleuze.
Et là où c'est fascinant, c'est que Deleuze répond.
Ah ouais.
Parce que Deleuze, mais oui, Deleuze, c'est un universitaire. Deleuze, c'est un vrai. Il est sérieux, Deleuze.
Ouais, ouais,
et Deleuze, il répond. Alors, évidemment, il est super futé, Deleuze.
Ouais.
Donc, du coup, il répond. Voilà, il répond de façon
avec sa génialité.
Voilà, c'est-à-dire qu'il dit de toute façon, voilà. Mais il se met dans cette position-là, mais voilà, parce que Deleuze, il a un rapport au pouvoir qui est très très particulier.
Ouais.
Mais là, cet acte politique de Lyotard, qui peut être lu et qui sera lu par la majorité comme de la faiblesse, comme une incapacité, comme une etc. En fait, est une position qui relève de la performance. Non au sens de la posture, parce que une conférence comme celle d'hier, je pense, moi, je suis perçu par tout un tas de gens, me semble-t-il, je crois, comme quelqu'un d'histrionique, d'un peu hystérique, tu vois. Oui, au sens où voilà, j'arrive avec mon t-shirt Nietzsche, je viens parler des concepts, voilà, il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'une posture, tu vois, un peu, etc. Mais en même temps, c'est une position que je ne vis pas, enfin que moi je ne la vis pas comme ça du tout, au sens où au contraire de me donner de l'énergie, enfin au contraire par exemple de mystériser et d'augmenter l'excitation, ça a plutôt tendance à m'apaiser en fait. Par exemple le séminaire d'hier, c'est-à-dire quand j'entends des questions et des gens qui a cet échange-là, j'ai l'impression que justement la pensée s'apaise, enfin qu'il y a quelque chose de... Je ne sais pas si dans les performances on décrit ça, mais ce moment où tu n'es pas... t'es pas tout seul. Enfin, voilà, il y a quelque chose de l'instant, enfin, du fragment subjectif.
C'est ça, en fait, dont je parle. Tu crois qu'il y a quelque chose de particulier à cette position qui est en rapport avec la psychanalyse ou pas nécessairement à la psychanalyse?
Ouais, moi je crois. Je dirais oui et non.
D'accord.
Alors, oui et non, pourquoi? Parce que moi déjà, alors, il y a un truc sur lequel je suis et je pense que je serai toujours, qui est presque une... on parlait tout à l'heure des avantages du célibat ou des avantages de la vie en famille pour quelqu'un qui croit en l'amour mais qui sait que l'amour est quelque chose qui n'est pas éternel, enfin...
Non.
Qui justement dans le côté éternel du fragment subjectif ne saurait être éternel dans une vie subjective individualisée, voilà, pour le dire un peu... de la même manière, moi, je pense que si je suis psychanalyste, ce n'est que dans le cadre des cures que je pratique. Alors ça, c'est une position un peu particulière. Alors là, pour le coup, c'est une position très...
c'est aussi lacanien. Hein.
Très, oui.
Voilà.
Un peu naïf, exactement.
Exactement.
Donc moi, par exemple, c'est une des questions, pourquoi j'écris pas d'articles purement psychanalytiques ou cliniques, c'est parce que moi, pour le coup, ça me parle pas du tout. C'est un truc dont je suis absolument pas capable. Donc, la question, est-ce que c'est psychanalytique? Je dirais oui. Au sens où je reconnais là quelque chose que j'ai pu vivre comme jeune, parce que je suis un jeune psychanalyste.
Oui.
Ça ne fait que 3 ans que j'étais patient.
D'accord.
Donc je suis un jeune psychanalyste, très concrètement. Mais par contre, on va dire un vieil analysant. Un analysant d'une trentaine d'années. Mais en tout cas, ce que j'ai pu vivre, expérimenter, ça ressemble vraiment à ce qu'on est en train de décrire là.
D'accord.
Maintenant, ce qu'on vit à ce moment-là, je ne le mettrai pas du côté de la psychanalyse,
d'accord,
évidemment, puisque on n'est pas en cure.
D'accord.
Je ne suis ni dans une position d'analysant, ni...
C'est pas
le dispositif analytique.
D'accord. Voilà. Mais il y a quelque chose, une position subjective.
C'est ça.
D'accord. C'est ça.
En tout cas, d'une position subjective, c'est-à-dire d'une potentialité subjective.
Ça
ressemble vraiment à ce moment de la rencontre. Ce que je disais hier quand on parlait de schizoanalyse, c'était un truc intéressant, ça, cette question. Parce qu'en y réfléchissant avec vous, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ferait la différence entre un schizoanalyste et un psychanalyste? C'est que le schizoanalyste, lui, il n'a pas de cadre déterminé qui serait de l'ordre de la psychanalyse. Et d'ailleurs, la réponse du schizoanalyste dans la salle, elle a été remarquable. C'est-à-dire, il a très concrètement dit, moi, je ne suis pas psychanalyste dans la cure. Il a dit « je suis schizoanalyste toute ma vie ». C'est ça qu'il a dit. Hein.
Ouais.
Il n'a pas dit autre chose. Parce qu'il a parlé du contexte social, du contexte familial, enfin du contexte de vie.
Oui.
Ce qu'il a dit, c'est que moi, j'ai une position de schizoanalyste dans ma vie, mais tous les jours, dans ma vie de chaque instant.
Oui.
C'est ça qu'il dit.
Oui.
Voilà. Là, pour le coup, ça me semble cohérent. Sa position me semble totalement cohérente. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que je n'ai pas cette position-là du tout dans ma
D'accord.
vie. On en discutait en off après avec Sandra et toi, mais lorsque je vous disais que l'une des raisons pour lesquelles je ne me situerais pas comme schizoanalyste, c'est tout simplement parce que je pense qu'un schizoanalyste ne serait pas dans la position d'ordre de la rencontre, de la première rencontre, des premières rencontres de ses patients, de pouvoir dire oui ou non, je pars avec vous dans ce voyage.
D'accord.
Oui, voilà, c'est qui est un moment.
Ouais.
Ça, on peut tourner autour du pot autant qu'on veut, mais il y a ce moment face auquel se retrouve tout psychanalyste, qui est de cette responsabilité personnelle, individuelle, au niveau subjectif, individualisé. Dire oui, moi j'accepte de partir avec vous. Voilà. On peut très bien dire non, je n'accepte pas.
Ouais.
Voilà. Mais on peut pas dire ah oui, ça s'est fait. Ça serait scandaleux, me semble-t-il.
Ouais.
Y a une position là éthique indispensable. Je pense que le schizoanalyste, il peut pas être dans cette position-là.
D'accord.
Parce que ce que propose à ce moment-là ce patient, c'est pas dire je pars avec vous dans une histoire qui n'a pas de cadre.
Ouais.
C'est je pars avec vous dans un dispositif sur lequel nous nous sommes mis d'accord.
D'accord. Ce qui va passer, on ne sait pas.
On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Ça, on n'en sait rien du tout.
Non.
On sait rien du tout. C'est là où je parlais de programme, évidemment. C'est par contre là où il y a quelque chose de provisoirement
d'accord.
du côté du programme, c'est qu'on dit, ok, en tout cas, ce que je vous dis, c'est qu'on va se voir 3 fois par semaine, on va se voir à tel horaire, vous allez me payer telle somme. C'est quelque chose, me semble-t-il, qu'un schizoanalyste ne peut pas dire.
Non.
S'il est vraiment dans la position de l'œsio-guattarienne, il ne peut pas venir dire, moi je vous propose ça, ça n'a pas de sens.
C'est impossible, c'est quelque chose comme un dispositif.
C'est impossible qu'un dispositif soit mis en place.
Non.
C'est donc d'une certaine manière, le sur ta question, est-ce qu'il y a quelque chose de l'analyse? Je dirais profondément oui.
Oui.
Parce que subjectivement, ça ressemble, ça a le même goût, c'est le même type d'expérience. Et puis en même temps, fondamentalement, non, puisqu'on n'est pas du tout dans le dispositif.
D'accord. D'accord.
C'est probablement même un des reproches justifiés que faisait l'anti-Œdipe à la psychanalyse et que moi je fais à la psychanalyse, c'est le fait que des psychanalystes parlent dans des dispositifs qui ne sont pas des dispositifs de la psychanalyse, d'une position qu'ils disent être une position de psychanalyste.
Ce qui, moi, me
semble d'une malhonnêteté intellectuelle et d'une faiblesse politique,
Absolument.
Enfin d'une lâcheté politique énorme.
Tu sais que Lacan disait qu'il n'a jamais vu deux psychanalystes ensemble. C'est
impossible. Il disait ça, c'est génial. Mais c'est...
Ouais.
C'est exactement.
C'est pas possible.
Il disait ça.
Oui.
C'est impossible. C'est impossible.
C'est exactement
ça.
Il n'y a pas d'analyste.
Il disait ça.
Hors l'acte analytique.
Il disait, ben, chez moi, ça me parle beaucoup.
Ouais. Je pense que tu vas continuer à travailler avec. Bon, si tu peux savoir ou pas, mais.
Avec
cet outil.
Oui.
Quelque chose à déployer.
Alors,
ou à quoi? Comment tu gérerais?
Je dirais oui parce que. Dimanche prochain, samedi prochain et vendredi prochain, je vais à Cordoba, donc je vais continuer
d'accord,
à travailler.
D'accord.
Au moins, je peux répondre dans la temporalité.
C'est un fait.
Demain soir, je vous avais proposé de parler de Lucifer.
Oui.
Parce que j'ai fait tout un travail avec Mauro, et je ne vais pas vous parler de Lucifer en fait, parce qu'une chose qui m'a été révélée pendant le séminaire d'hier et pendant cette rencontre, c'est que si je voulais vous parler de Lucifer, il faudrait que Mauro soit là.
D'accord. Et ça, c'est un truc qui m'a... Ouais, c'était très intéressant de me rendre compte de ça. Parce qu'en fait, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, de parler demain, c'est que pour moi, l'intérêt du mythe, c'est de pouvoir répondre à une question qui est une question immédiate. En l'occurrence, dans notre livre, on parle beaucoup de mythes. Il y a une question qui s'est posée autour de l'événement de Fukushima. Pour nous, ne pouvait pas être convoqué uniquement par la sociologie, par l'histoire, etc., mais pouvait être convoqué par le mythe. En l'occurrence, le mythe de Prométhée et le mythe de deux ou trois autres mythes japonais et polynésiens. Dans un autre texte sur lequel on a travaillé, la question de la possession, l'expérience possible de possession au Japon qu'on avait expérimenté avec Mauro, on s'est mis à l'ouverture d'un autre mythe, qui est celui justement du mythe de la possession. Comment est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire être possédé, le diable, les démons, etc. En fait, Lucifer, c'est quelque chose sur lequel on bloque avec Mauro depuis une dizaine de mois. C'est beaucoup. Hein. On bloque parce que il a beaucoup lu sur ça. Moi, j'ai relu Milton.
Oui.
J'ai lu quelques auteurs, mais somme toute assez peu. Mais il y a quelque chose qui nous parle sur le mythe. Et comme ça, ça va répondre à ta question. Et en fait, ça m'est venu hier au soir en rentrant après le séminaire. Je me suis dit, mais je vais leur parler. Pourquoi je vais leur parler du mythe ? Pour leur dire que je sais des choses sur le mythe, que je... ça n'a aucun intérêt. Non. En fait, c'est quoi le problème ? Pourquoi est-ce qu'on veut parler de Lucifer ? Et je me suis rendu compte qu'avec Mauro, on était coincés parce qu'on n'a pas de problème commun ces temps-ci. Tu vois, c'est comme dans une histoire d'amour, c'est tout va bien. On n'est pas confronté à un problème. Donc, n'étant pas confronté à un problème, on a commencé, à un moment on a été confronté à un problème, c'est pour ça qu'on s'est posé la question de Lucifer. Ouais. On a été confronté à un problème qui était le problème de la... le problème du rapport à la... comment dire... on se demandait si... on se demandait, en fait... après avoir travaillé sur Prométhée, on se demandait si Prométhée était libre. On s'était posé la question. C'était un peu rigolo comme question. C'est-à-dire que, est-ce que, quand tu prends le mythe de Prométhée, qui est très complexe parce qu'il y a différentes fins de l'histoire en fonction des auteurs grecs, et à un moment Prométhée s'en sort, sort de son rocher, d'autres fois dans d'autres textes, il se dissout dans le rocher, enfin bon, il y a plusieurs. Et en tout cas, on se disait, mais comment se fait-il, enfin, je vais pas, là c'est pas l'espace, mais comment se fait-il que quelle relation y a-t-il entre un père et son fils, tel que Zeus et Prométhée, voilà, c'est pas exactement le fils de Zeus, mais enfin, en tout cas, c'est la façon dont on le lisait. Et on disait, mais qu'est-ce qui se passe pour que le fils soit capable d'accrocher, ce père soit capable d'accrocher son fils, le fils qui empêche le père de faire une connerie, parce que Prométhée empêche de faire une connerie, c'est en l'occurrence d'avoir un enfant de Thémis qui va dévorer le monde, etc. Et en fait, le truc qui nous est venu, c'est, mais pourquoi est-ce que Dieu ne pardonne pas à Lucifer ? C'est une phrase, moi, qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué dans le... Alors, je ne sais plus exactement où c'est, parce que ce n'est pas Dante qui le dit. Mais c'est qu'à un moment... c'est dans quel texte ? Ce n'est pas Milton non plus. Je ne sais plus. Je me demande si ce n'est pas... Bon, je ne sais plus. En tout cas, il y a cette dans un poème du 16e. Et je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Il y a une très belle phrase où... comment il s'appelle ? Judas.
Oui.
S'en prend à Dieu en lui disant, mais si tu étais vraiment le Dieu que tu es, dans ce cas-là, tu aurais pardonné à Lucifer. Voilà. Pourquoi ne pardonnes-tu pas à Lucifer ? Et on s'est dit, ben voilà, il y a un truc là. Il y a un truc où en fait, Lucifer n'est pas du tout la figure du diable, du tentateur, etc., du mal, du tout. Lucifer, c'est la figure prométhéenne, moderne.
en fait, de la chrétienté.
Il est nécessaire à Dieu.
Voilà. Il y a quelque chose. En fait, Lucifer a empêché Dieu de faire la connerie qu'aurait fait Zeus. Voilà. On a commencé à creuser là-dessus. Et on a, voilà. Donc, du coup, on a lu, on était super excités. Et puis, à un moment, la raison pour laquelle on se posait cette question a disparu. Et là, en fait, en y repensant, de cet entretien, je me demande si la question, elle venait pas de notre propre place à Mauro et à moi de père, en fait, par rapport à nos propres enfants.
D'accord.
Il y a peut-être c'est un truc là. Et en tout cas, on creuse, et j'arrive à vouloir vous en parler, parce que j'ai envie de vous en parler, parce que j'ai beaucoup de matériel, beaucoup de matériel,
beaucoup.
Et en même temps, de me dire, mais de quoi je vais vous parler, parce que j'ai pas de problème à vous...
Voilà.
Donc, quand tu me demandes, est-ce que tu vas encore utiliser fragments subjectifs,
ouais.
Si j'ai aucun problème qui me correspond à cet outil-là,
oui.
Non.
Ah non, si tu n'en parles pas, non.
Non. C'est-à-dire, il sera caduque, et,
ouais.
Et à un moment, quand, comme c'est le cas au séminaire d'hier,
ouais.
Dans ma pratique, je sens que j'en ai besoin à nouveau,
ouais.
Et ben, j'ouvre vraiment, alors là, pour le coup, ouais. C'est le concept de... Clinic Zone, je sais que Maïe Victor aime beaucoup,
oui.
Ce concept-là. Et, c'est, tu ouvres ta boîte à outils,
oui.
Et puis tu regardes. j'ai besoin de ça. Ah, mais tiens, j'avais oublié que j'avais cet outil-là.
Ouais.
Et tu le mets et tu le mets en
place.
Dans ce cas, ça reviendra. Est-ce que je vais encore en avoir besoin?
Je ne sais pas.
Mais je pense que dans sa vie, et ça, c'est quand même la beauté de la pensée, c'est que je pense que dans sa vie, on peut utiliser des concepts et des outils qu'on a fabriqués, mais vraiment tout petits.
D'accord.
Y compris quand on était enfant. Y compris, je pense,
ah oui.
Que... Ah ouais, c'est ça. des trucs, à un moment, tu t'es retrouvé face à un
mmh.
problème, quand t'étais enfant.
Ah ouais.
Un problème... les enfants sont extraordinaires pour ça.
Bon, oui.
Je fais essentiellement des thérapies d'enfants. Ils sont extraordinaires. C'est-à-dire quand ils se retrouvent face à des problèmes, et comment ils construisent des outils, mais avec une rapidité, une agilité extraordinaire. Et tu dis, si on était nous, quand penseurs adultes, si on arrivait nous à avoir cette agilité dans la fabrication des concepts pour résoudre des problèmes, on serait
mieux.
Ah ouais, on irait super bien. Enfin,
il y aurait
quelque chose d'une fabrication du monde, des échanges qui serait fabuleuse. Et je pense que dans sa vie, l'analyse peut aider à ça aussi. C'est-à-dire, tout d'un coup, dans ce fragment subjectif, dans ces instants-là, il y a quelque chose du temps qui disparaît,
oui.
Et tu te retrouves à être l'enfant que tu étais,
oui.
Parce que l'analyste est aussi l'enfant que tu étais, mais et c'est pas l'analyste qui est, c'est pas toi, c'est dans cet instant-là. Et tu te retrouves à te rendre compte que tu avais utilisé un outil qui, certes, à l'époque, t'avait permis de passer à autre chose, mais dont le prix à payer pour pouvoir l'avoir utilisé se joue dans une actualité très souffrante, très symptomatique, 30 ans après. Tu vois, enfin, c'est. Et ces moments incroyables dans l'analyse où tout d'un coup tu reviens, le patient ou toi, tu reviens à toi en te disant mais oui, mais j'ai plus 5 ans, j'ai plus 10 ans. Outil-là, oui, mais. Et tout d'un coup, cet outil, tu le réutilises.
Ouais.
Tu peux le réutiliser.
D'accord.
Tu peux tout d'un coup voir, non pas comme tu étais quand tu étais petit, mais voir comme tu es maintenant, en
d'accord.
Te souvenant comment tu regardais quand tu étais petit.
Je te remercie.
Ben, c'est moi. C'est bon ?
C'est beau, c'est très beau. Alors, je dois faire ça.
Alors,
ça, non ? Ça, c'est ça.
Je crois que c'est ça.